J'aimerais, avant de commencer, j'aimerais juste revenir sur un point dont une femme m'a parlé au sujet de cet exemple que j'ai donné de la femme qui a été calomniée à l'Église. Elle m'a dit que ce n'était pas clair où il fallait de la repentance. Cette femme a été calomniée. Elle a remis ses griefs à Dieu. Mais où il manquait de repentance, c'est les dirigeants de l'Église qui l'avaient calomnié, qui auraient dû demander pardon. Elle était prête à le faire. Cet exemple, je l'ai utilisé surtout pour montrer qu'il y avait une différence entre la remise des griefs à Dieu et ce que c'est le pardon. Cette femme, vous allez voir peut-être dans ce que je vais dire maintenant, cette femme aurait dû aller voir les dirigeants parce que une chose que Dieu nous demande, c'est d'aller vers notre ennemi. Ça s'en vient. Mais l'exemple, c'était aussi de vous montrer que l'injustice, l'offense reste aussi longtemps que ces dirigeants de l'Église ne soient pas allés demander pardon à cette femme. Elle n'était pas justifiée. C'était... Où est la dame qui m'avait... Oui. Donc, la repentance était de la part des dirigeants de l'Église. En tout cas, on ne peut pas en discuter maintenant, mais si ce n'est pas encore clair, venez me voir par après. OK? J'aurais dû pas prendre du café. Merci. Alors, nous avons, avant le dîner, parlé de ce que c'est le pardon. Juste pour faire le lien... j'ai dit, je sais que c'est dense. Quelqu'un m'a dit au repas, c'est dense, Nancy, ton sujet. Et oui, c'est un sujet qui est dense. Je me rends compte en parlant que c'est dense, que je vous donne des concepts peut-être qui sont nouveaux, que vous n'avez pas le temps de les faire descendre en vous, mais je vous donne des outils. J'essaie de vous... Les notes sont là aussi pour vous. Mais le pardon biblique est dense, il est important, il est merveilleux, il est surprenant. Il dépasse notre connaissance. Et puis, je sais que c'est ça, mais c'est ça que je voulais partager avec vous parce que c'est tellement important, le pardon. Alors, nous avons dit, on a mis de côté la fausse conception du pardon, que ça égale l'oubli. On a dit le pardon est plus qu'un acte de volonté. Le pardon n'exige pas qu'on renonce à ses droits. Le pardon est une réalité que j'accorde à mon offenseur. Le pardon ne s'opère pas dans le secret de mon cœur. Ne confondez pas le pardon avec la remise des griefs. Donc, le pardon nécessite la repentance. Alors, quelle est la démarche du pardon? On a regardé pourquoi pardonner, on a regardé le pardon... Maintenant, quelle est la démarche du pardon? Servons-nous d'un exemple biblique pour mieux comprendre la démarche du pardon. En Luc 22, les versets 61 et 62, nous lisons, c'est après où Pierre a nié le Christ. « Le Seigneur se retourna et regarda fixement Pierre. » Alors Pierre se souvient de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu auras affirmé trois fois que tu ne me connais pas. » Pierre sortit et pleura amèrement. L'offensé, Jésus, l'offenseur, Pierre. Lisons maintenant Jean 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux qui ne m'aiment ?»« Oh oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis, il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis, il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Quelle est la démarche du pardon d'après ce que nous lisons ici? D'abord, j'ai un devoir d'aller vers celui qui m'a offensé. Je viens de dire quelques mots là-dessus. Ma réaction naturelle serait de me retrancher en moi-même et d'éviter de côtoyer mon offenseur. Je me défendrais. Par exemple, au sein d'un couple, on ferait la tête. Ou entre amis, on ne se parlerait plus. Nous attendrions que l'offenseur vienne solliciter notre pardon pour renouer avec lui. Est-ce que c'est cela que Jésus a fait avec Pierre? Au contraire, il va au-devant et prépare un souper pour ses disciples. La démarche biblique inclut la grâce. Que serions-nous devenus si Dieu avait attendu que nous, ses offenseurs, prenions l'initiative d'implorer son pardon? Matthieu 18 nous dit, « Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver et montre-lui sa faute, mais en demeurant seul avec lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Jésus nous invite à aller vers notre offenseur pour lui offrir notre pardon et briser le cycle de la rupture. Deuxième chose dans la démarche du pardon. Cela ne sert à absolument rien d'aller vers mon offenseur si je ne suis pas motivée par le désir de pardonner. Les griefs sont remis au Seigneur, alors je ne le trouve pas pour le détruire, c'est important. L'agresser verbalement ou l'insulter. Je ne réponds pas au mal par le mal. Donc, ça peut prendre un peu de temps, selon ce que j'ai dit tantôt. 1 Pierre 4, 8 dit, « Aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour efface un grand nombre de péchés. » Alors, je dois me poser les deux questions suivantes avant d'y aller. Pourquoi est-ce que je veux voir mon offenseur? Il faut être honnête avec soi-même. Et qu'est-ce que j'attends de cette entrevue? Une petite mise en garde ici. Mise en garde du danger de pousser l'offensé vers son offenseur en exerçant une pression spirituelle quand l'offensé n'est pas prêt ou n'a pas maîtrisé sa colère. Et c'est important pour nous, comme sœurs chrétiennes, de se souvenir de cela. Quand l'offense est grave, un certain temps est nécessaire avant que le croyant, dans son combat contre la haine, ne puisse discerner en son offenseur non un individu à vaincre, mais une victime du péché à gagner, comme Matthieu 18, 15 nous a dit. Donc, on va vers l'offenseur, on va avec un désir de pardonner. Troisièmement, la discrétion. Matthieu 18, 15, que nous avons lu, nous exhorte à reprendre notre ennemi seul à seul. Le souci de, l'offensé, donc ton souci, est le rétablissement de l'offenseur. Quatrième pas dans la démarche du pardon, j'appellerai ça un appel à la repentance. Nous visons dans notre démarche une prise de conscience de la part de notre offenseur. Pas de prouver que nous avons raison, mais de l'aider à se resituer face à Dieu et à son péché. Alors, il est nécessaire d'être précis, de nommer l'offense, d'être sûr que les mots ont le même sens pour vous et pour votre offenseur. Cela prendra du courage. Je sais. Il se pourrait que tous les torts ne soient pas du même côté. Et cet appel à la repentance devienne une démarche d'ouverture l'un envers l'autre. En fait, notre appel à la repentance devrait débuter par la confession de péché dont nous sommes conscients nous-mêmes. Nous montrons ainsi que notre intention n'est pas de détruire, mais de construire, de pardonner. Regardez le tact de Jésus en reprenant Pierre. Aucune agressivité, aucune accusation, aucune vengeance. L'appel à la repentance est tendre. À la troisième demande de Jésus, Pierre saisit pleinement que son reniement demeure une dette entre le ressuscité et lui, et Jésus veut l'en libérer. Cinquième point dans la démarche, c'est le don du pardon. Une dame est venue me voir tout à l'heure en disant « pardon » à le don, le mot « don » là-dedans. Et effectivement, le pardon est un don que nous donnons. Dieu me pardonne au moment où il me déclare juste, grâce au sacrifice de Jésus-Christ et en réponse à ma foi. Son pardon est une sentence juridique. Elle me fait passer de l'état de coupable à celui de non-coupable. Grâce à elle, je sais que j'ai la paix avec Dieu. La Bible me le dit. Romains 15, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Nathaniel Hawthorne, un grand écrivain américain, a écrit un roman intitulé « The Scarlet Letter », traduite « La lettre écarlate », son chef-d'œuvre et un classique de la littérature américaine. Il s'agit d'une femme du 17e siècle qui commet l'adultère. Par la suite, elle est obligée de porter autour du cou un foulard sur lequel est cousue la lettre « A ». En tissu écarlate, afin que tout le monde sache qu'elle a été prise dans l'adultère. Savez-vous que nous toutes, ici ce matin, nous portons une lettre écarlate A sur nous? Non, nous ne sommes pas toutes des femmes adultères, mais nous sommes toutes des abominations que Dieu aime, que nous soyons à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église. La seule différence, c'est que nous, à l'intérieur de sa famille, avons expérimenté la grâce de Dieu, son pardon. Donc, nous ne portons pas de foulard. Mais nous savons dans nos cœurs que nous sommes des abominations. Chacune de nous sait qu'elle est brisée, que sa vie est faite de réparation, que seule la grâce de Dieu en est la colle. Nous avons été pardonnés par la grâce de Dieu, une grâce gratuite, sans condition, aux frais de Jésus. Une grâce gratuite, sans condition, aux frais de Jésus. Ton offenseur qui se repent sincèrement attend lui aussi ta déclaration de pardon. Tu es le seul à pouvoir le délier du mal qu'il t'a fait. Le pardon peut prendre plusieurs formes selon le type de relation entre l'offensé et l'offenseur. Un inconnu qui t'agresse dans la rue, un mari qui t'a divorcé ou un ami qui t'a trahi, c'est des offenses très différentes. Mais ton pardon doit être total, comme celui de Dieu et comme celui de Jésus envers Pierre. « Prends soin de mes brebis » égale « Je te refais confiance ». Je reprends ici l'histoire de Corrie ten Boom. Elle s'était pourtant crue si sûre d'être guérie de sa blessure, savoir vaincu sa haine et d'avoir pardonné. Mais à cet instant, face à l'un de ses bourreaux, elle était saisie de mépris et de haine. Paralysée, elle ne savait plus quoi faire ou dire. Elle se mit alors à prier. « Jésus, je me sens impuissante à pardonner à cet homme. Pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. » Elle essaya de sourire et fit un effort pour tendre la main. Impossible. Elle ne sentait rien. Pas la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Une fois de plus, elle murmura silencieusement une prière. « Jésus, je ne peux pas lui pardonner. Donne-moi ton pardon. » Au même moment, quelque chose de merveilleux se passa. Elle sentit de son épaule à sa main, tout le long de son bras, un courant d'énergie s'élancer et enlacer son ennemi, tandis que dans son cœur surgissait un amour presque étourdissant pour cet étranger. Elle se sentit rejointe par le pardon de Dieu. Sa main se leva et prit celle de son ancien torsonnière. De même coup, elle venait de se libérer et de libérer son bourreau de son horrible passé. Comment expliquer un revirement aussi soudain? On l'aura deviné. Le miracle du pardon s'est produit chez Corrie grâce au sentiment indescriptible que Jésus lui avait pardonné, son impuissance à pardonner. Son propre aveu d'impuissance avait attendri son cœur et l'avait rendu capable de recevoir la grâce de pardonner. Dans les paroles de Corrie ten Boom en décrivant cet événement, elle dit « Le pardon vise la libération du prisonnier. Et quelle surprise de constater que le prisonnier, c'est moi. Je saurai que l'œuvre du pardon est accomplie lorsque j'expérimente la liberté qui en résulte. C'est moi, l'offensé, qui souffre le plus quand je choisis de ne pas pardonner. » Personne, à part Dieu, ne peut produire la repentance dans le cœur de l'autre. Le changement essentiel est l'affaire de Dieu, non la mienne. J'accepte simplement de tenir mon rôle dans le processus, placer le coupable en face de la vérité dans l'espoir qu'il se repentira et que la relation sera rétablie. Offrir le pardon. Et je finis avec la réconciliation. L'offense inflige une blessure. Nous l'avons déjà dit. Le remède en est la remise des griefs à Dieu et la volonté de pardonner. L'offense engendre une dette dont le remède est le pardon offert à l'offenseur qui se repent. Mais l'offense en est en plus une atteinte à la relation entre l'offensé et l'offenseur. Le pardon est une invitation à la réconciliation. La restauration de la relation est l'œuvre de la réconciliation. Comme le pardon exige la repentance, la réconciliation exige le pardon. Autrement, c'est une réconciliation à bon marché qui oublie l'offense sans la traiter. Notre pardon vise une réconciliation. Elle est la fin d'une animosité. L'absence de la volonté de restaurer la relation prouve que nous n'offrons pas le pardon de tout notre cœur. Le Christ, par son sacrifice sur la croix, a garanti mon acquittement et ma réconciliation avec Dieu. Il m'a pardonné en vue de nouvelles relations avec lui. Son pardon ne reste pas suspendu dans les airs, mais grâce à la réconciliation, il débouche sur un rapport d'intimité entre Dieu et moi, de même avec mon offenseur. Quelques mots sur la réconciliation. D'abord, ne confondez pas pardon et réconciliation. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ne confondez pas pardon et réconciliation. Permettez-moi de vous lire l'exemple utilisé par Jean Monbourquette. Une femme s'était éprise d'un grand amour pour son pasteur. Celui-ci était aussi entiché d'elle et avait répondu à ses avances, non sans craindre de ternir sa réputation, car il était marié et père de famille. Sûre de l'amour de cet homme, elle quitta son foyer pour vivre seule en appartement. Elle avait donné comme prétexte à son mari qu'elle voulait se retrouver elle-même et réfléchir sur l'orientation à donner à sa vie. La vraie raison était de pouvoir vivre une plus grande intimité avec son amant qui projetait de quitter son épouse pour aller la rejoindre. Mais l'épouse du pasteur eut vent de l'affaire et elle persuada son mari d'aller consulter un conseiller matrimonial. Finalement, elle réussit à la dissuader d'aller vivre avec son amante. Notre héroïne se retrouve tout esselée dans sa garçonnière et, après réflexion, elle s'avisa de retourner au foyer familial. Or, son mari, encore sous le choc d'avoir été abandonné, exigea d'elle des promesses formelles de fidélité. Il en faisait la condition essentielle de son pardon et du retour éventuel de sa femme au foyer, ce à quoi son épouse s'opposa. Ils en étaient là quand ils se présentèrent chez moi. Je réussis à faire comprendre au mari qui ne pouvait pas mettre de conditions à son pardon. Celui-ci devait être total et sans condition. Cependant, une fois son pardon total accordé, il pourrait négocier les conditions du retour de sa femme au foyer. Il confondait pardon et réconciliation. C'est important, ça. Je cite La Rochefoucauld, un auteur français illustre. Lui, il dit, « Les amitiés renouées », ça c'est le numéro 2, hein, j'ai numéro 1 dans les mots sur la réconciliation. « Ne confondez pas pardon et réconciliation », ça c'est le deuxième. Et je cite La Rochefoucauld, « Les amitiés renouées demandent plus de soins que celles qui n'ont jamais été rompues. » Et c'est vrai, après une grave offense pardonnée, on ne peut plus reprendre la relation passée pour la simple raison qu'elle n'existe plus et ne peut plus exister. Je parle de grave offense. Elle n'existe plus, cette relation que vous aviez. On pourrait l'approfondir ou lui donner une autre forme. Les amitiés renouées demandent plus de soins. Troisièmement, les limites de la réconciliation à cause de notre faiblesse humaine. Je vais aussi ici citer aussi un exemple de la Bible en Genèse 13. Les bergers d'Abraham et ceux de Lot se sont disputés. Vous connaissez l'histoire. Abraham et Lot se retrouvent pour trouver une solution. Et je cite, « Alors Abraham dit à Lot, « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » L'amour et la grâce sont présents, mais leur réconciliation est marquée par le réalisme et la prudence en raison de la fragilité humaine. Ils ont besoin d'un certain espace vital et ils se séparent. Nous aussi, nous avons besoin d'un espace vital dans notre vie affective et émotionnelle quand nous avons été offensés à cause de notre faiblesse humaine. Il est parfois nécessaire d'en fixer les limites à l'égard de notre offenseur que nous avons pourtant traité avec grâce par le pardon et la réconciliation. Par exemple, ce frère ou ce père qui vous a violé, ce père qui est violent, cette relation conflictuelle entre parents et enfants adultes, cet ami qui te manipule, cette belle-mère qui s'ingère dans les affaires de votre famille. Une offense venue d'une personne très chère fournit souvent l'occasion de s'ouvrir les yeux sur la dépendance maladive que l'on pourrait entretenir à son égard. Ça, c'est une autre offense. La brisure de la relation, si pénible soit-elle, offre à l'offensé l'occasion d'examiner sa situation de dépendance et de devenir autonome. Le pardon permet de se réapproprier l'amour, l'énergie et l'idéal, en somme, tout l'investissement psychologique et spirituel que l'on a placé sur la personne aimée. La distance affective ou les limites entre toi et ton offenseur ne pourraient durer que le temps pour ton offenseur de prouver la fermeté de sa promesse de ne plus blesser et pour toi de réellement lui faire confiance. Dans un couple ou entre amis, la réconciliation peut même déboucher sur une complicité ou une intimité accrue. Petite mise en garde ici aussi. Ne confondez pas un espace vital avec un refus de contact. C'est deux choses différentes. Un tel refus ou une fuite devant votre offenseur sont des indices que pour vous, le problème n'est pas encore réglé. Il y a encore de l'animosité. Établir un cadre sage aux relations, oui, mais ne pas pouvoir se rencontrer du tout, c'est autre chose. Quatrième remarque par rapport à la réconciliation, il existe des situations où la réconciliation avec l'offenseur s'avère impossible. Prenons par exemple les cas où vous auriez affaire avec un offenseur inconnu, décédé ou introuvable, ou encore un offenseur qui se révèle impénitent. Faudrait-il en conclure que le pardon et la réconciliation sont impossibles? Non. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit par rapport aux griefs remis au pied de la croix? Le pardon est une disposition du cœur, en raison de quoi il est non seulement possible de l'accorder, mais il est nécessaire de le faire pour recouvrir la paix et la liberté intérieure, que l'offenseur soit disponible, abordable ou non. Nous parlons de la réconciliation avec un offenseur qui est introuvable ou pas là. Dans les situations où vous ne pouvez pas exprimer directement votre pardon, il vous reste toujours la possibilité de la faire par un geste symbolique, comme écrire une lettre qui ne sera pas postée, ou vous entourez d'un objet qui symbolise votre pardon, que vous mettez là. Chaque fois que vous le regardez, vous pouvez dire « J'ai pardonné à mon père ». Ou poser un geste de réconciliation à l'endroit d'une personne qui tiendrait lieu de l'offenseur. Quelques idées pour vous aider. Même si le pardon n'aboutit pas toujours à une réconciliation parfaite, elle n'en sera pas moins bénéfique à moi qui pardonne, et cela de multiples façons. Je me serai d'abord réconciliée avec moi-même. Je ne me sentirai plus dominée par le ressentiment et l'esprit de vengeance. J'aurai réussi à ne plus juger mon offenseur, mais à le comprendre. Je pourrai dans mon cœur lui souhaiter le plus grand bonheur possible. Je pourrai caresser l'espoir que Dieu transforme le cœur de mon agresseur. Tout cela à l'aide de mon Père céleste qui m'aime, qui me soutient et qui a envoyé Jésus pour mes propres péchés afin de me réconcilier avec lui. On m'a dit, avant de venir ici, oh Nancy, tu jongles avec des charbons ardents. Parler sur le pardon comporte des risques. C'est un sujet hasardeux. En l'écrivant, je me sentais et je me sens encore démunie avant l'ampleur, la complexité et la profondeur du sujet. Parler du pardon, c'est plus que discourir simplement sur l'amour. C'est parler d'un amour très particulier, d'un amour prêt à se dépasser jusqu'à vouloir recréer un nouvel univers de relations. Il s'appelle Agapé, l'amour de Dieu. Vous la connaissez. La voix, avec X, la voix qui nous appelle mes bien-aimés, est la voie de la liberté, parce qu'elle nous libère pour aimer sans rien demander en retour. Agapé. Cela a tout à voir avec l'amour abondant qui nous a été donné librement par Dieu lui-même et duquel nous voulons aussi donner librement. Le pardon est notre grande arme spirituelle contre notre adversaire, le diable. Aussi longtemps que nous restons victimes de la colère et du ressentiment, la puissance des ténèbres a libre cours dans notre vie et peut continuer à nous diviser, à nous tenter avec des jeux de puissance sans fin. Mais lorsque nous pardonnons à ceux qui menacent notre vie, notre paix, ils perdent leur pouvoir sur nous. Le pardon ouvre la porte à la guérison et à la liberté. Prions. Père céleste, notre Abba, tu sais que le pardon n'est pas un acte occasionnel. C'est une attitude de cœur permanente qui nous libère tous les jours à t'aimer plus et à pardonner à ceux qui nous blessent et à les aimer. Il n'y a que toi qui peux nous donner ce genre de cœur. Nous nous ouvrons à toi pour ta guérison et ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen.